Jean-Bernard Leroy. Voici donc mon exposé du mois de juin. L'histoire de l'église de l'abbé Yvelin s'arrête au début du XVIIIe siècle. C'est elle qui m'inspire depuis de longs mois. Des auditeurs bienveillants m'ayant demandé de continuer, je vais donc le faire, autant que mon âge le permettra car j'approche des 87 ans, en prenant pour source diverses revues, notamment La Nef et L'Homme Nouveau, celles que je lis le plus souvent. Je commencerai par des extraits du numéro de La Nef daté de novembre 2017, ayant pour sujet Samuel Champlain, le Québec, plus généralement le Canada français, qui a survécu bien que négligé par sa mère patrie. Le siècle des Lumières parlait de quelques arpents de neige qui furent négligés pour garder Haïti la plus riche des Antilles lors du traité de Paris en 1763, traité signé après la difficile guerre de 7 ans. Actuellement, Haïti est un des pays les plus pauvres du monde, mais ce n'est pas le cas du Canada. Les Lumières ne firent pas toujours preuve de jugements éclairés. Bon, les propos qui vont suivre reproduisent en grande partie des textes écrits par Jacques de Guibon, Yves Chiron, Arthur Mertens et l'abbé Benoît, de bons connaisseurs de la belle province. La grande aventure française en Amérique du Nord a curieusement débuté avec un Italien, Giovanni di Verrazzano. Il travaillait pour un amateur de Dieppe et partit à la recherche du passage du Nord-Ouest qui aurait permis de contourner l'Amérique. Il parcourut les côtes occidentales du continent qu'il baptisa Nova Gallia, la Nouvelle-France. En hommage à François Ier, il baptisa Terre d'Angoulême, le site de la future New York. C'était en 1524. 10 ans plus tard, Jacques Cartier longea les rôles de la Gaspésie et découvrit l'embouchure du Saint-Laurent. Il se lia d'amitié avec des Indiens dont plusieurs l'accompagnèrent en France. En 1535, il atteignit Hochelaga, un petit village où se bâtira Montréal. C'est Jacques Cartier qui donna à ce pays le nom de Canada, qui dans la langue locale signifie simplement « village ». Mais la terre n'était pas très riche, comme l'avaient montré les pierres et minerais qu'il avait rapportés au roi de France. L'entreprise est mise en sommeil pendant 70 ans. Il faudra attendre 1604 pour qu'un noble de Royan, Pierre Dugas-Desmonts, un huguenot, relance les expéditions, patronné par Henri IV, lieutenant général du pays de... nommé par Henri IV, lieutenant général du pays de l'Acadie. Il organisa une petite colonie dans la baie française, regroupant des artisans de différents corps de métier, quelques gentilshommes, un aumônier catholique, un pasteur et un jeune géographe, Samuel Champlain. Après quelques difficultés, la petite colonie commença à se développer malgré la réticence des jésuites qui se plaignaient de la présence de huguenots et des grands marchands de fourrures qui craignaient la concurrence. Malgré tout, Samuel de Champlain, qui s'était ajouté une particule, se rendit sur les rives du Saint-Laurent où il fonda Québec. En 1632, Richelieu reprit l'Acadie aux Anglais qui étaient arrivés entre-temps et mit en route un peuplement réel. La frontière sud était l'objet d'attaques fréquentes des Anglais. Des capitaines héroïques s'illustrèrent dans sa défense, comme le baron de Saint-Castin, allié des Indiens à Benaki, dont il épousa la fille du grand chef. Il créa une sorte de culture métisse franco-indienne. Malheureusement, l'aventure française de l'Acadie se termina mal. Par le traité d'Utrecht, qui mit fin à la guerre de succession d'Espagne en 1713, 2 ans avant la mort de Louis XIV, le Canada et l'Acadie furent cédés aux Anglais. La France gardait Haïti. Mais l'Acadie supportait mal la tutelle britannique et se révoltait fréquemment. En 1753, l'Angleterre décida de se séparer de cette population française et malgré l'heure de leurs amis indiens qui s'appelaient des Micmacs, ils furent entassés dans des bateaux à fond plat et déportés vers la Virginie. Les Français. Vers la Virginie, la Caroline, et même pour certains, vers l'Angleterre. C'est ce que les Canadiens ont appelé le grand dérangement. Le Québec, toutefois, put résister. Revenons au XVIIe siècle. La première famille de colons français vint s'installer au Québec en 1617, faisant commerce avec des Hurons, échange de quincaillerie contre des fourrures et des peaux de castor. Les familles fondatrices du Québec développaient leur agriculture avec des semences apportées d'Europe. Champlain noua des alliances solides avec les Algonquins, les Montagnais et surtout avec les Hurons, contre leur ennemi commun, les Iroquois soutenus par les Anglais. Il explora le pays et en dressa les cartes jusqu'au lac Ontario. Sa politique de peuplement commençait à payer. Des familles de paysans, venues principalement de l'ouest de la France, recevaient un fief. Les missionnaires entreprenaient d'évangéliser les sauvages. Champlain déclarait au chef des Algonquins « Nos garçons se marieront avec vos filles et nous ne ferons plus qu'un peuple ». Malgré tout, le déséquilibre entre les sexes était de plus en plus patent. Louis XIV envoya alors ses filles du roi, orphelines de toute classe sociale, placées sous sa protection pour qu'elles soient mariées outre-Atlantique. Le 4 août 1701, la Grande Paix de Montréal met fin aux guerres franco-iroquoises. Ce fut le début d'une période de paix sans précédent. En 1742, sous la direction du gouverneur Pierre Gaultier, l'influence de la colonie s'étendait jusqu'au lac Winnipeg et même jusqu'aux Rocheuses. Mais la guerre couvait avec les Anglais qui ne pouvaient supporter la présence française. Ils voulaient le monopole de la traite des fourrures. En 1754, la France envoyant Louis-Joseph de Montcalm avec 3000 hommes, mais ce fut insuffisant. Malgré plusieurs défaites, le général britannique Wolfe réussit à bloquer Québec et remporta la victoire de la plaine d'Abraham en 1759. En dépit d'une belle résistance, le gouverneur Vaudreuil signa la capitulation de Montréal en 1760, mettant fin à la belle aventure française du Canada. En réalité, ce n'était la fin que du point de vue de la métropole, car, attachés à leurs traditions, à leur langue, à leur foi, et soutenus par des prêtres dynamiques, les Québécois résistent toujours à l'assimilation anglo-saxonne après plus de 2 siècles et demi. En 1774, dans l'acte du Québec, les Anglais reconnurent la spécificité des Canadiens français, s'assurant ainsi de leur loyalisme pendant la guerre d'indépendance américaine. Si on change d'allégeance, on ne change pas le caractère profond des personnes, on ne colonise pas sitôt leurs esprits. L'âme naissante de la nation québécoise resta donc inchangée. Craignant de grandes violences, l'Angleterre permit aux Canadiens français de rester catholiques, de garder leur langue et d'organiser leur communauté suivant les règles du régime français, au moins dans un premier temps. Ce faisant, la fière ou perfide Albion mit le Canada français et son âme naissante en garde d'être contaminée par les idéaux de la Révolution française qui reprenait pour elle une grande partie de l'esprit libéral anglo-saxon protestant. Avec les idées de la Révolution, il aurait été beaucoup plus difficile pour les Québécois de se définir par rapport au Canada anglais. L'âme québécoise, en quelque sorte encapsulée, retint comme fondamentale son rapport à la foi et à la morale catholique, son esprit de collectivité, son organisation sociopolitique et son rapport presque mystique à la culture française. En 1867, le Canada devint une fédération. Les Canadiens français héritent d'une province ayant un certain degré d'autonomie, chapeautée par une structure gouvernementale jouissant de la souveraineté politique. Une dernière remarque, toujours puisé dans ce numéro de la Nef, l'article a été rédigé par Mathieu Bock-Côté, intellectuel québécois, à qui il était demandé si la France et l'Angleterre avaient un même approche de la colonisation de l'Amérique, notamment à l'égard des autochtones. La réponse était la suivante. Non, pas du tout. Certes, l'Angleterre et la France en Amérique, non, pas du tout. Entre la France et l'Amérique, il y a une différence de civilisation. La première arrive en Amérique et repousse les Amérindiens avec lesquels elle ne veut pas se mélanger. Elle les repousse toujours plus loin, et lorsque cela ne sera plus possible, elle les enfermera dans des réserves. La France arrivera avec une toute autre vision, qui est en bonne partie due à Samuel de Champlain, le fondateur de Québec en 1608. La Nouvelle-France mise sur le métissage avec les Amérindiens. Elle n'a pas d'intention dominatrice. Après 1760, les Anglais ont voulu assimiler ce que l'on appelait les Canadiens français, puis les Québécois. Ils n'y sont pas parvenus. Les Québécois ont réussi à conserver la langue française et la religion catholique. Ils ont ainsi permis la conservation d'un peuple qui aurait bien pu disparaître et ne laisser qu'une trace folklorique dans son cousin d'Amérique. Voici un exemple très bien. Quand on parle de repentance, il serait peut-être bon de se rappeler de tels. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon été.